Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la liberté d'expression dans le monde arabe, 6 ans après les soulèvements populaires qui ont bouleversé la région. Une question particulièrement d'actualité en Égypte, où le président Sissi vient de promulguer une loi qui condamne à la disparition les associations de défense des droits de l'homme, 4 jours après le blocage par les mêmes autorités égyptiennes de 21 sites web de médias, dont le journal en ligne indépendant Madam Asr. L'encadrement des médias et des réseaux sociaux est à l'ordre du jour en Égypte, et pas seulement en Égypte, alors que la liberté d'expression faisait partie des revendications des printemps arabes. Du Maroc à l'Irak, les situations sont très diverses. La Tunisie fait figure d'exemple pour ses progrès en termes de liberté de la presse. L'Égypte et la Syrie reculent. La presse indépendante, 6 ans après les printemps arabes, était le thème d'une conférence organisée cette semaine à Paris par Orient 21. Nos invités, Lina Attallah, cofondatrice et ancienne rédactrice en chef de Madam Asr, site d'information bilingue créé en 2013 au Caire. Bonjour.
Bonjour.
Nala Shahal, écrivain, chercheur et journaliste, directrice de Pure Player à Safir Arabie, créé en 2011, qui couvre le monde arabe depuis le Liban. Bonjour.
Bonjour.
Et Alain Gresh, directeur du journal en ligne Orient 21 et organisateur donc de cette conférence organisée cette semaine à Paris. Bonjour.
Bonjour.
6 ans après le printemps arabe, quelle liberté pour la presse dans les pays arabes? La question se pose, je l'ai dit en introduction, avec d'autant plus d'acuité que Madam Asr, média indépendant égyptien, lancé à la veille du coup d'état militaire de 2013 contre le président islamo-conservateur Mohamed Morsi, démocratiquement élu 1 an plus tôt, eh bien ce site d'information a été bloqué par les autorités égyptiennes il y a quelques jours. Madam Asr était l'un des derniers bastions de la liberté d'expression en Égypte, un site d'information bilingue. Lina Attallah, c'est une surprise. Pourquoi ce blocage et pourquoi maintenant?
Depuis que nous avons commencé notre travail à Madam Asr en 2013, notre mission était de garder une certaine ouverture de liberté d'expression qui a commencé surtout avec la révolution. C'est une liberté pour laquelle on luttait beaucoup avant la révolution. On l'a eu partiellement juste après la révolution et on voulait essayer de la préserver, même en sachant que l'Égypte, dans le temps, en 2013, allait passer par des moments politiquement très difficile, là où beaucoup de libertés que nous avons acquis pendant la révolution et après la révolution allaient disparaître là. Et donc Madam Asr, la mission principale c'était de continuer cette expérience de journalisme libre, d'écrire des articles qui sont basés sur l'information, d'avoir recours à des sources qu'on trouve pas dans les autres médias qui sont plutôt plus ou moins aligné avec les autorités aujourd'hui en Égypte. Et donc, après 3 ans et demi, presque 4 ans, c'était plus possible de garder cet espace. Au moins, c'est comme ça que les autorités pensent, à mon avis. Et donc, la décision, c'était de faire ce blocage de telle façon à ce que la plupart des lecteurs, de nos lecteurs égyptiens ou en Égypte, ne peuvent plus avoir accès au site web. Pourquoi maintenant? Je trouve que le blocage de notre site web tombe dans le contexte de plusieurs mesures de sécurité qui sont prises par les autorités pour fermer de plus en plus l'espace politique qui est déjà devenu très étroit en Égypte aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez bien mentionné la loi contre les ONG qui vise principalement les organisations de défense de droits d'homme dans le pays, le blocage des sites web, mais aussi l'emprisonnement et l'arrêt de plusieurs militants qui ont commencé à ouvrir la discussion et la conversation sur la possible candidature de personnes indépendantes pour les élections de 2018 en Égypte. Donc il y a tout un contexte, le contexte de la répression, ça continue depuis 2013, mais dernièrement, dans les quelques semaines passées, il y a un renforcement de cette répression.
Alors on verra avec vous, Nala Shahal, si finalement ce qui se passe en Égypte est vraiment un phénomène phénomène particulier, atypique. Alain Grèche, très rapidement, les sites web égyptiens, on leur reproche des financements en provenance du Qatar ou de la confrérie des frères musulmans, classée organisation terroriste. Finalement, de quoi le pouvoir égyptien a-t-il si peur aujourd'hui?
Oui, vous avez raison de souligner, dans la décision prise par les autorités égyptiennes, il y a un amalgame fait volontairement, évidemment. Ils ont interdit 20 sites, dont certains sont proches du Qatar, dont certains sont proches des frères musulmans. C'est pas une raison pour les fermer, mais, et de manière à ce que d'autres sites qui sont indépendants, comme Madamas, soient considérés par le public comme appartenant à la même mouvance. C'est extrêmement pervers parce que, en même temps, je veux dire, ça veut dire que toute forme d'opposition, forcément, c'est les frères musulmans. Toute forme d'expression, c'est forcément l'étranger. Il y a aussi, ça c'est un élément important à prendre en compte, il y a aujourd'hui une campagne, je crois, en Égypte, de mise en cause des ingérences étrangères. Je veux dire, on est vraiment dans les théories du complot. Il y a un complot contre l'Égypte fait par des agents de l'extérieur et ils ont leur relais à l'intérieur. Donc ça c'est fait pour discréditer. Mais je crois qu'aussi ce que Lina a dit est très important, c'est dire l'an prochain il y a l'élection présidentielle.
En 2018.
Et ils ont très peur. Ils ont très peur alors qu'il n'y a pas d'espace pour qui que ce soit, mais le temps où Sisi avait un appui relativement large pour des raisons diverses, qui est à la fois le rejet des frères musulmans, l'idée que l'armée allait sauver le pays, elle est finie. Elle est finie parce que la situation économique est un désastre, elle est finie parce que la répression est permanente, et donc ils ont très peur de qu'est-ce qui peut se passer. Par exemple, là, ils sont en train de préparer l'arrestation de Khaled Ali, qui est un avocat, qui a été candidat à la précédente élection présidentielle. Il vient de la gauche. Il n'a pas obtenu d'importants résultats, mais il avait l'idée de se présenter. Et là, il est clair qu'ils veulent pas qu'il y ait des gens qui puissent canaliser le mécontentement. Même si on sait très bien que les élections sont verrouillées, que l'administration va faire tout pour qu'il obtienne 80% des voix, etc. Mais s'il y a un semblant de candidat présidentiel d'opposition qui peut avoir accès un peu aux médias officiels, etc., c'est pour eux très inquiétant. C'est aussi un signe il faut le dire, de la faiblesse du pouvoir, quoi.
Faiblesse du pouvoir, Lina Atala, il y a aussi ce que j'ai pas encore nommé, la problématique des journalistes emprisonnés en Égypte. Aujourd'hui, ils seraient au nombre de 62.
La communauté de la protection des journalistes dit que c'est un peu moins parce qu'ils comptent surtout les journalistes qui sont enregistrés au sein du syndicat. Donc les nombres diffèrent, mais le plus grand nombre fait beaucoup plus de sens parce que pas tous les journalistes sont enregistrés dans le pays de toute façon.
Bon, je peux dire un mot juste là-dessus, sur un collaborateur, parce que c'est un collaborateur d'Orient 21, c'est aussi un collaborateur de Madamas qui s'appelle Ismail Alexandrani, qui est maintenant depuis près de 2 ans, je crois.
Un an et demi
en prison. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que il n'y a pas de procès. C'est-à-dire, c'est renouvelé sans arrêt, il passe devant le juge dit on va le juger dans un mois, etc., etc. Et c'est un cas parmi d'autres, mais il est quand même le symbole de l'arbitraire le plus total de ce pouvoir aujourd'hui.
Ça s'appelle détention administrative.
Nala Shahal.
Oui. Ça s'appelle la détention administrative. Mmh. Pour Ismail Skandarani, on lui reproche d'avoir écrit sur la défaillance du plan de l'État contre le terrorisme au Sinaï et les conséquences qui sont inverses de ce qui est annoncé, entre autres, parce qu'il est un jeune chercheur brillant avant d'être uniquement un journaliste. Moi, je voudrais ajouter aux raisons que Lina et Alain ont présentées que Sisi a eu quand même, malgré tout, à confronter des résistances à sa politique. Et Khaled Ali, par exemple, a été l'avocat principal des détenus, mais aussi de Tiran et Sanafir, qui sont les deux îles que Sisi voulait donner à l'Arabie Saoudite en disant ça leur appartient. Et en fait, c'était une sorte de cadeau en contrepartie d'aide financière. Et ça n'a pas marché. Les tribunaux et un grand mouvement populaire en Égypte, basé sur des traditions qui n'est pas née de rien, mais surtout sur 2011, on fait une telle résistance que les tribunaux ont été enclins à dire, preuve à l'appui, que les deux îles sont égyptiennes. Et c'était une grande défaite pour Sisi. En plus de ça, et c'est pas depuis longtemps que la décision du tribunal a été de déjouer, si vous voulez, la décision de Sisi d'offrir ces deux îles, il y a aussi un autre élément qui est la position de M. Trump concernant
le président américain.
Sisi. Le président américain. Sisi a été dans le sommet qui s'est tenu il y a une semaine.
En Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite, à Riyad. Il a eu un blanc-seing, vraiment, de Donald Trump, qui lui a dit qu'il était génial, qu'il lui faisait confiance, machin.
Donc, c'était réciproque. De...
Donc, il a, en même temps, il a un feu vert et des Saoudiens. Il y a eu un moment de tension infinie et des Américains. Et pour lui, ça suffit. Il peut passer à la répression. En plus de l'élection de 2018, en plus de la défaite sur Tehran et Sanafir, je pense que c'est la conjoncture générale qui lui permet de faire.
Des faisceaux convergents, Alain Grèche, en faveur.
Il a un feu vert, puisqu'on est quand même en France, il faut le dire, du gouvernement français. Le gouvernement français qui prétend défendre les libertés et les droits de l'homme, là, il y a une complaisance à l'égard de l'Égypte, qui n'est pas seulement le fait qu'ils nous ont acheté des Rafales, mais entre autres, ça, évidemment, ça aide, entre guillemets. Mais il y a aussi le retour à ce qu'était la position du gouvernement français avant 2011. C'est-à-dire, mieux vaut avoir des dictatures, et sinon on aura des islamistes.
Ou bien le chaos, et ça c'est ridicule.
Ou le chaos. Et aujourd'hui, c'est ça. Mais il faut dire que notre actuel ministre des Affaires étrangères, qui était le ministre des Armées, il ne cache pas son admiration pour le maréchal Sisi. C'est quand même inquiétant. Qu'il y ait des relations normales entre la France et l'Égypte, je veux dire, personne ne demande la rupture des relations, mais il y a quand même un minimum. Après, on s'étonne que le discours occidental sur la démocratie et les droits de l'homme soit discrédité. Quand nous-mêmes, notre action en France contribue à le discréditer.
Monsieur Le Drian, donc, pour parler du ministre français des Affaires étrangères. Lina Atala, évidemment, les cadres juridiques en Égypte sont très peu protecteurs pour les médias. Quelle riposte possible ?
Ce que nous avons décidé de faire depuis que cette crise de blocage a pris place, c'est qu'on va pas arrêter de publier et on va utiliser toutes les plateformes que nous avons, tous les partenaires que nous avons pour publier notre contenu de façon à ce que ça soit accessible au public égyptien. Déjà, le contenu est accessible ailleurs. Ça veut dire si on est en dehors de l'Égypte, on peut toujours le dire. Mais aussi, il y a une cause principale, c'est que des Égyptiens en Égypte puissent lire notre contenu sur ligne. Donc, on n'a pas arrêté de publier. Mais en même temps aussi, on est en train de porter plainte auprès des autorités, puisque jusqu'à maintenant, personne ne nous a appelés, personne ne nous a envoyé des accusations de façon officielle ou principale. On a lu, comme Alain vient de dire, dans les médias, qu'il y a des sources anonymes qui ont dit qu'il y a cette liste de 21 sites web qui ont été bloqués parce qu'ils soutiennent le terrorisme et ils publient des mensonges. Et là, nous sommes en train de porter plainte auprès des autorités pour dire quelle est la référence légale que vous avez utilisée pour bloquer notre site web. Si vous avez des accusations contre nous, pourquoi vous ne les portez pas de façon directe? Pourquoi cette façon un peu invisible de nous bloquer? Vous ne devez pas avoir peur, vous êtes les autorités, vous avez le pouvoir, donc il s'agit de faire ça de façon un peu plus légale. Donc on continue à publier, alors qu'en même temps on est en train de porter plainte aux autorités. Et c'est la même approche que les autres sites web qui ont été bloqués aussi, avec lesquels on travaille aussi parce que nous sommes en solidarité, même si on ne partage pas les mêmes messages politiques, si on n'a pas d'affinité politique, mais nous sommes tous ensemble dans cette lutte contre cette répression de l'expression, et là on est en solidarité là.
Nala Shahal, le cas égyptien est atypique en termes de liberté de la presse dans les pays du monde arabe.
Non, évidemment que non. Il est la règle. Je dirais, il y a eu une parenthèse qu'on est tous en train de garder ouverte, qui est celle de après 2011. C'est très important de le dire. C'est-à-dire que partout dans le monde arabe, il y a des formes de répression, parfois publiques, claires, parfois pas du tout. Et parfois en se basant sur des accusations, parfois en coupant les moyens financiers. Non, c'est la règle générale. Ce qui était exceptionnel, ce sont ces fruits que les soulèvements de 2011 ont portés partout partout dans le monde arabe, avec la reprise de l'espoir, surtout par les jeunes générations, qu'il y a un moyen de dire ce qu'on veut dire et qu'il faut le dire et il faut se battre pour le dire. Ça, c'est important, ça, c'est précieux. Et je crois que la bataille actuelle de Madame Masr, entre autres, parce que c'est aujourd'hui, mais c'est pas du tout atypique, à ce sens-là, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans Safir Arabi, on a dit qu'on leur donnait notre plateforme. Ils peuvent publier sur notre plateforme ce qu'ils veulent, parce qu'on est en collaboration depuis longtemps. Et donc, je pense que c'est aussi une reprise de cet esprit de 2011 qu'il faut garder, parce que c'est un pont, même si la situation est très mauvaise, c'est un pont vers d'autres éventualités. Je crois qu'il faut garder cette capacité à faire face à la répression, à toutes les répressions, pas que à celle-là, hein, et de façon ensemble, dans le monde arabe, dans l'ensemble du monde arabe, qui a été vraiment sous cette vague qui l'a touché depuis... Oman, Bahreïn, et ce que vous voulez, l'Arabie Saoudite, les pays, tous les pays, pauvres ou riches, ont été dans cette vague à des degrés et des formes différentes. Je pense que c'est important de garder ça.
Alain Grèche, finalement, cette solidarité entre les pays arabes, c'est, on pourrait dire, l'un des acquis de ces révolutions de 2011?
Oui, tout à fait. Bon, on se souvient comment, au début des révolutions, l'effet domino. Un peu, elle a commencé en Tunisie, puis ça a été l'Égypte, puis ça a été la Syrie, le Yémen,
la Libye.
Et puis tout le monde regardait, c'est-à-dire il y a eu un moment où il y avait une, on peut dire une, c'est le moment peut-être où l'unité arabe a été la plus forte depuis très longtemps au niveau des populations. Maintenant c'est différent parce que il y a les problèmes particuliers à chaque pays, mais je crois que cet élément est important et il est important à développer. C'est-à-dire de créer, de renforcer ces réseaux qui existent entre les médias, d'échanger les informations, d'arabiser et puis mondialiser les résistances, quoi. Ça me semble tout à fait important.
Lina Atela, il nous reste 3 minutes pour terminer cette première partie d'émission. Finalement, dans le cadre du média indépendant pour lequel vous travaillez, que je rappelle, Madame Asr, en Égypte, bloquée cette semaine par les autorités égyptiennes, de quelle Égypte parliez-vous ?
C'est une Égypte qui a passé par un soulèvement très important en 2011 et c'est un soulèvement qui a changé beaucoup de réalités. Ça veut dire que, comme Nala vient de dire, ça a ouvert la possibilité de l'espoir qui n'existait plus avant ça et qui n'est pas complètement disparu, même si nous sommes en train de vivre dans une répression que les gens de ma génération, les personnes de ma génération n'ont pas vécu avant ça. Ça veut dire qu'avant la révolution, bien sûr, il y avait beaucoup de répression, mais il y avait toujours une parenthèse qu'on essayait toujours de défendre et qui existait et on arrivait à faire des choses et à créer des possibilités dans cette marge-là. Cette marge-là presque n'existe plus maintenant, mais quand même on est en train de la défendre et je me demande comment est-ce que ceux qui sont au pouvoir croient que c'est possible d'assourdir cet espace et cette possibilité politique complètement. Je ne crois plus que c'est possible. 5 ans après ou 6 ans après la révolution.
Alors, j'allais vous poser la question de savoir si finalement il n'y avait pas moins de liberté aujourd'hui en Égypte que sous le président Moubarak. Votre réponse ?
C'est moins, beaucoup moins, à mon avis.
Et c'est vrai partout ailleurs, Nala Shaal ?
Mais j'ai peur qu'on ne regrette les régimes dictatoriaux qui ont existé avant 2011. Ça serait quand même quelque chose de très bizarre. Il y a la contre-révolution. C'est pour ça que c'est très violent, c'est très brutal. Mais il y a aussi l'espoir, encore une fois, c'est très important. Le sentiment de dignité, le sentiment du possible. Donc c'est une confrontation. Alors qu'avant, peut-être qu'ils avaient laissé certains marges parce qu'ils n'avaient pas peur. Maintenant, ils ont peur. Ils ont vu devant leurs yeux que des régimes pouvaient tomber.
Ils ont peur, ce sont les régimes en place, on a bien compris.
Oui, bien sûr.
Un commentaire à la Grèche.
Oui, moi, ce qui me frappe en Égypte, c'est bien plus brutal que dans les dernières années de la période Moubarak. Et en même temps, l'impression que j'ai c'est que le régime n'arrive pas à contrôler. C'est-à-dire, Moubarak, d'une certaine manière, les marges de liberté qu'il laissait, c'était aussi parce qu'il savait qu'il contrôlait la situation. Et là, j'ai l'impression qu'ils ferment les marges de manœuvre parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler la situation. Et effectivement, c'est se dire, enfin, c'est le résultat de ce qui s'est passé en 2011 et du fait que je pense que ça aura à terme ces révolutions arabes ou ces soulèvements auront des conséquences importantes.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Lina Atala, Nala Chahal et Alain Grech dans quelques instants. À tout.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la liberté d'expression dans le monde arabe, 6 ans après les soulèvements populaires qui ont bouleversé la région. Nous retrouvons nos invités, Lina Atala, qui est cofondatrice et ancienne rédactrice en chef de Madamasr, site d'information bilingue créé en 2013 au Caire et bloqué cette semaine par les autorités égyptiennes. Nala Chahal, qui est écrivain, chercheur et journaliste, directrice du Pure Player à Safir Arabie, créé en 2011, qui couvre le monde arabe depuis le Liban. Et Alain Grech, directeur du journal en ligne Orient 21. Vous êtes deux femmes autour de cette table, ici en studio à Paris, pour nous parler de votre travail, de vos expériences dans ces médias indépendants, l'une au Liban, l'autre en Égypte. Est-ce que vous êtes finalement le reflet de ce qui se passe dans chacun de vos pays en termes de mobilisation? Je ne sais pas qui veut répondre en premier, Nala Chahal.
Écoutez, moi et Lina, on n'appartient pas à la même génération. Moi, je suis beaucoup plus vieille que Lina. Mais je pense que ceci même est parlant. C'est-à-dire, ceci est l'expression de quelque chose. On est dans la continuité de cette présence des femmes du monde arabe, pas que arabe, hein. Elles peuvent être kurdes, amaziques, ce qu'elles veulent, dans l'espace public. Ça a commencé dans les années 60 et même avant. Mais là, on est vraiment dans cette continuité qui peut avoir des ruptures, mais qui reprend. Et je peux vous donner l'exemple, par exemple, de Al-Safir Al-Arabi que je dirige, où on a commencé en 2011, fin 2011, à avoir 3 écrivaines parmi les 30. C'était le début. On a voulu la parité. On est maintenant au tiers de 250, quand même, de femmes, depuis l'Arabie Saoudite, le Yémen, ce que vous voulez, la Mauritanie, tout. Les pays arabes. Et je pense que ce sont des femmes jeunes pour beaucoup et moins jeunes. Les moins jeunes disent « Ah, ça nous a rappelé nos ambitions de notre jeunesse, donc on reprend, on revient. » Et les jeunes disent « Mais c'est normal. » Et elles ont leur vision de leur société. C'est pas qu'elles défendent nos écrivaines, par exemple, nos journalistes ne défendent pas uniquement les questions liées à la situation des femmes. Elles présentent leur vision de leur société à partir d'un angle qui a ses particularités, qui est celui des femmes. Et je crois que c'est très important à dire.
Lina Atala.
Pour moi, je pensais jamais à cette question de mon identité en tant que femme, mais je pense un peu plus souvent à ça après la révolution. Mais à Mada, par exemple, les femmes toujours étaient la majorité, même dans le journal que je dirigeais, que je gérais avant Mada, je travaillais surtout avec des femmes, donc c'était pas une question très présente. Mais maintenant que je viens de plus en plus consciente, je vois qu'après 2011, cette question de la présence de la femme dans cet espace public et de la vision que être une femme peut présenter, c'est quelque chose qui est de laquelle je suis de plus en plus consciente. Quand par exemple au niveau des questions de femmes, des causes de femmes, je vois très clairement que même si on parle toujours avec cette langue de défaite après les révolutions et les soulèvements de 2011, je pense que une campagne comme la campagne contre l'harcèlement sexuel, qui est un très grand problème en Égypte, était une des campagnes les plus réussies. Tout le monde en parle maintenant, de toute classe sociale, de toute classe économique, hommes et femmes. Il y a des législations qui sont sorties, qui créent des punitions un peu plus sérieuses contre les gens qui fait de l'harcèlement sexuel. Et donc, c'est un exemple d'une cause qui est devenue plus présente dans nos conversations. Au niveau de MADA et au niveau de nos initiatives, je suis très consciente comment la présence de femmes dans notre newsroom, dans nos opérations, ça crée un angle qui n'est pas seulement lié à des questions de femmes, mais comment on aborde différents sujets. projet. Et ça crée un angle duquel je suis très consciente, qui n'aurait pas été possible si c'était juste des hommes dans le newsroom. Je fais très attention au rapport hommes et femmes dans le newsroom, et je suis très consciente qu'il faut avoir aussi tant que femmes que d'hommes dans le newsroom, et nous sommes à 50% pour le moment, et je pense que ça devra être plus, puisque nous vivons dans des sociétés patriarques jusqu'à maintenant, et donc 50 à 50 c'est pas assez à mon avis, il faut que ça soit plus en fait. Mais c'est vrai qu'il y a ma propre transformation d'être plus consciente ce qu'est être une femme dans cette société après ce soulèvement. À mon avis, c'est un des résultats de 2011.
Newsroom, nous avons compris qu'il s'agissait des salles de rédaction. Ouais. Alain Grèche, votre commentaire sur cette question.
Bon, dans le réseau que nous avons créé de sites indépendants du monde arabe, la plupart des responsables, c'est des femmes, et je pense que c'est quelque chose de positif. C'est un changement très profond qui est en train de se passer dans le monde arabe. Un signe parmi d'autres, c'est qu'aujourd'hui, à part le Yémen, il n'y a pas un pays où le nombre d'étudiantes n'est pas supérieur au nombre d'étudiants, y compris en Arabie Saoudite. Vous avez 55 à 60% des étudiants qui sont des étudiantes. Plus vous avez un phénomène de transition démographique, qui est aussi, comme on le sait, c'est-à-dire que les femmes ont moins d'enfants, c'est un élément de libération de la femme. Donc ça, c'est des changements sociétaux très profonds qui, je pense, pèsent aussi. Ça ne suffit pas, évidemment, ça demande des combats, y compris chez nous en France. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour voir à quel point, des fois, les questions de la parité sont difficiles, aussi bien chez les politiques que chez les journalistes. Mais je crois que c'est quand même des choses importantes. Et moi, j'ai été très frappé, d'ailleurs, en lisant Madame Asr, par le succès des campagnes autour de la question du harcèlement sexuel. Les arguments, qui étaient les arguments qu'on entendait en France, qu'on entend encore aujourd'hui, si elle s'habillait pas comme ça, on la harcèlerait pas, etc. Ça commence à être battu en brèche. C'est un long combat, c'est pas des choses faciles, mais le fait que ce soit venu, que ça ait été relayé, que même les médias officiels étaient obligés de reprendre, je pense que c'est un signe très positif.
Je voudrais ajouter à cette campagne qui est très très importante, effectivement, parce que le harcèlement pousse les femmes à un repli. On veut sortir les femmes dans l'espace public. Et si la rue est dangereuse et menaçante, elles ont tendance, et les voix qui leur disent « mais restez à la maison », reprennent le pouvoir. C'est ce combat-là qu'on est en train, pas que celui du confort des femmes pour qu'elles ne soient pas harcelées dans la rue. Mais la deuxième bataille qu'on est en train de mener dans le monde arabe ensemble, c'est celle de marier les jeunes femmes voilées par leurs violeurs pour qu'ils ne soient plus jugés. Et je pense qu'on a eu gain de cause dans certains pays, rétraction des autorités sur des lois qui disent que celui qui épouse la fille violée, peut ne pas être sujet de poursuites juridiques. Je crois que c'est une bataille très importante. Parce que l'argument aussi, c'est ça qui est important, c'est pas que la manifestation, l'argument est de ne pas mettre sur la place publique l'honneur et de la fille violée et de sa famille. Alors nous, on dit le viol n'affecte pas l'honneur. Au contraire, c'est une victime et il faut que le criminel soit jugé. Je pense que c'est un combat sur les idées, sur ce que moi j'appellerais les convictions générales. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est ça le combat principal.
Donc on sent des initiatives, on sent que les choses bougent. Vu de l'extérieur, on n'a pas cette impression-là. C'est plutôt rassurant. Médias indépendants ou pas, réseaux sociaux bloqués, de toute façon, les choses sont là pour agir d'une certaine manière en contre-pouvoir. J'aimerais comprendre le rapport aujourd'hui qu'il y a entre les sociétés arabes avec la scène politique. Lina Tala.
Je parlerai de l'Égypte parce que c'est plus facile pour moi de faire ces observations dans le pays où j'habite, où je vis. À mon avis, même si nous sommes en train de vivre dans un moment très difficile, là où toute ouverture qui était possible juste après 2011 n'est plus là, je pense que un effet principal des révolutions et des soulèvements de 2011, c'est que le peuple, la société en Égypte et peut-être plus qu'en Égypte, dans le monde arabe en général, change de perception vis-à-vis l'autorité et vis-à-vis l'État. Je pense que cette notion de l'État, comme a été présentée à nous depuis plusieurs générations, depuis les années 60, juste après l'indépendance, ce concept de l'État, l'État de sécurité, l'État qui nous protège de tout ce qui est danger extérieur, mais à l'échange, ça sera un État sécuritaire qui nous dirige par force, qui nous gère par force. Cette perception-là est en train de changer. Et le peuple est en train de penser de façon un peu différente. Ça veut dire que des idées de contrat social, l'idée que l'État peut être parfois incapable, que l'État n'est pas en train de faire ce que le peuple a besoin, n'est pas dans le cas de l'Égypte, par exemple, l'État n'est pas en train de gérer le problème économique comme il faut. Mmh. Ces questions-là sont en train de se poser et cette perception-là de l'État a changé. Je me rappelle très bien que pendant les manifestations du juin 2013 en Égypte, il y avait des manifestations contre le régime de Mohamed Morsi qui appartenait aux frères musulmans. Et juste après ces manifestations, les forces militaires ont pris le pouvoir et ont nommé un gouvernement. J'étais en train de couvrir ces manifestations-là et c'était très intéressant de parler à des gens qui sont pro-force militaire, qui disait « Nous sommes là en train de faire ces manifestations parce que nous ne pensons pas que le régime des frères musulmans est en train de bien gérer le pays. Mais même qu'on soit pro-force militaire et pro-force armée, si les forces armées prennent le pouvoir et ne sont pas capables de gérer le pays comme il faut, on fera de même dans quelques années. On sortira aussi, on fera les manifestations et on demandera un changement de régime. » C'est le genre de gens qu'on appelle la majorité, c'est le genre de gens qu'on appelle conservateurs, pro-militaires. Mais il faut se rappeler que ces gens-là ont pu nous dire ça, on peut dire ça à des médias et des médias qui publient ces propos-là. Et donc, pour moi, c'est un effet principal de 2011, un changement de la perception de l'État post-colonial que nous avons hérité des années 60.
Nadachal.
Oui, il suffit de voir Facebook et les commentaires des jeunes sur Facebook, qui est un moyen de communiquer quand même très, très important. Il y a un degré de moquerie du pouvoir. Il y a un degré de non-respect. On se moque avec parfois des mots imagés ou avec parfois même des dessins. Mmh. Les pouvoirs ne sont plus du tout, comme a dit Lina, sacralisés. On ne croit plus dans leur capacité à gérer. Et ça, ça fait toute la différence parce que c'est comme ça que les gens prennent eux-mêmes leur destin entre les mains. Et on publie tout le temps dans Safira Arabi des extraits, des commentaires des jeunes gens de l'ensemble de la région. Vraiment de l'ensemble de la région. Il faut voir à quel point ils sont critiques. Ils n'ont plus peur, alors que parfois on juge des jeunes gens sur les commentaires qu'ils ont écrits sur Facebook. C'est quand même quelque chose. Ils communiquent entre eux, déjà ridiculiser le pouvoir et ne plus le prendre comme un dieu. C'est important.
Et ça, finalement, plus que le bénéfice des révolutions, Alain Grèche, c'est le bénéfice d'Internet et des réseaux sociaux?
C'est une dialectique, c'est-à-dire que les révolutions ont cristallisé quelque chose à un moment qui existait avant. Mais là où vous avez raison, peut-être, il y a une crise du politique, des perspectives politiques, il n'y a pas de parti politique. Mais je dirais, d'une certaine manière, c'est une crise qui est dans le monde entier. Hein. C'est pas seulement dans le monde arabe, on le voit chez nous. Évidemment, elle prend d'autres formes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas dans ces pays aujourd'hui une force politique dont on peut dire qu'elle prépare le changement. Et peut-être que ça a été un des problèmes des révolutions arabes, c'est-à-dire la difficulté de traduire un mouvement massif en changement politique. Et c'est vrai que cette crise du politique existe, mais c'est vrai aussi que la résistance de la société, elle est là, elle ne va pas disparaître. Alors quand ça va déboucher, personne ne peut le dire. Mmh. Si en septembre 2010, quelqu'un avait dit « mais dans 3 mois, il n'y aura plus Ben Ali, il n'y aura plus Moubarak, etc. », personne n'aurait dit « mais vous êtes un plaisantin ». Il faut pas sous-estimer non plus les victoires de la contre, c'est-à-dire il y a une vraie contre-révolution organisée, financée en partie par les pays du Golfe. C'est quelque chose qui est fort. Il y a il y a une répression, il y a des appareils qui sont là. Personne ne le sous-estime. Mais en même temps, il y a cette résistance, résilience, comme on dit maintenant, des sociétés et notamment de la jeunesse qui, il faut le rappeler, c'est une des régions les plus jeunes du monde. Je crois qu'en Égypte, il y avait 60-70% de la population qui n'avait pas connu un autre président Moubarak, c'est-à-dire oui. C'est quand même
70% des populations arabes ont entre 15 et moins de 30 ans. Quand même 70%.
Oui,
Alors, vous le disiez, ce sera presque la conclusion pour chacun d'entre vous, résistance des sociétés, vous l'évoquiez à l'instant, Alain Gresh. Ce qu'on sent à l'écoute de vos propos, c'est un mélange d'espoir. Nala Shahal parlait du sentiment de dignité qui avait été recouvré. Donc, on sent un mélange d'espoir et de désillusion en même temps. Finalement, pour conclure, est-ce que, d'après vous, les printemps ont été utiles?
Je ne pense pas qu'il y a de désillusion. Plutôt, je crois qu'on mesure aujourd'hui la gravité de ce que nous avons pu faire en 2011, qui n'était pas du tout dans l'ordre du jour. Et on est conscient tous, avec l'espoir et avec le sentiment que c'est possible, on est conscient de la difficulté de cette tâche. On est dans une confrontation majeure. Et les régimes en place, les pouvoirs en place maintenant savent que eux peuvent tomber. Donc, ils sont de plus en plus féroces. Et comme a dit Alain, on n'a pas beaucoup d'outils. Il y a beaucoup de défaillances dans les outils qui sont entre nos mains, à part la volonté et à part cette intelligence qui est admirable. Mais on résiste avec les moyens de bord qui sont minimes. Mais je pense que le fait que les gens aient la volonté de résister et créer des formes de résistance, même sur le plan culturel, artistique. Moi, je voudrais juste évoquer la quantité de graffitis qui ont été dessinés sur les murs des villes dans le monde arabe dans sa totalité, depuis le Yémen jusqu'en Mauritanie, pour dire que il y a quelque chose qui est vivant dans ces sociétés, mais on est face à une répression parce que c'est pas drôle. Il y a le pétrole, il y a la proximité géostratégique avec l'Europe et donc le monde. Il y a Daesh, l'État islamique, qui est quand même... Enfin, c'est très compliqué, on n'a pas le temps. Mais il y a des défis et il y a des contre-révolutions et il faut faire avec.
Lina Tala, sur l'utilité des printemps arabes.
Moi, je vais évoquer une scène plutôt que de parler théoriquement sur les faits de 2011. Au début de 2013, lorsque les manifestations contre le président Morsi avaient commencé, c'était le premier président élu après la révolution. Du coup, il avait commencé à mettre un régime de répression sur la liberté d'expression, etc. Et les manifestations avaient déjà commencé en janvier 2013 contre son régime. Et comme d'habitude, si je ne suis pas dans la salle rédaction, je suis avec les manifestations. Et il y avait une grande manifestation autour du château de présidentiel, du palais présidentiel à Héliopolis, est du Caire. C'était une grande manifestation au niveau où les gardes de sécurité qui protègent le palais s'étaient retirés. Et c'était à nous, les manifestants, de vouloir en fait essayer de rentrer dans le palais présidentiel. Et c'était un moment vraiment très fort. On n'en a pas trop parlé, je ne sais pas pourquoi, en général dans les médias, mais c'était un moment très fort. Mais ce qui s'est passé, c'est que les manifestants ont décidé de ne pas rentrer au sein du palais. Au lieu de faire ça, après que les gardes de sécurité se sont retirés, les manifestants ont commencé à se grouper autour des murs du palais. Et ils ont commencé à dessiner du graffiti qui se moquait du président et du régime et de l'État, et etc., etc. Et pour moi, c'était un moment très symbolique. Et ça symbolise cette phrase à laquelle je pense tout le temps ces jours-ci, c'est que peut-être qu'on ne va pas prendre le pouvoir, peut-être qu'on ne veut pas prendre le pouvoir, mais on est en train de construire un pouvoir alternatif en même temps. Et c'est quelque chose qui n'a pas débuté en 2011, c'est quelque chose qui a commencé antérieur. Depuis 2011. Mais qui a été mise en relief en 2011. Donc peut-être qu'on ne veut pas prendre le pouvoir, mais on est en train de créer et de développer un pouvoir alternatif.
Pour l'instant, on ne va pas prendre le pouvoir.
Pour l'instant.
Ça va être la conclusion de Géopolitique. Merci à nos invités. Lina Tala, qui est cofondatrice et ancienne rédactrice en chef de Madamasre, site d'information bilingue créé en 2013 au Caire et bloqué cette semaine par les autorités égyptiennes. Nala Shahal, écrivain, chercheur et journaliste, directrice du Pure Player Asafir Arabi, créé en 2011, qui couvre le monde arabe depuis le Liban. Et Alain Gresh, directeur du journal en ligne Orient 21. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la Chine et à deux de ses défis, la crise environnementale et la dépendance alimentaire.